Marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà in cammino ci illuminerà. Non
sapevo qual è... Il est midi sur Prune, l'heure de se réchauffer les mains autour d'un feu de joie. Siamo Tutex part à la rencontre des milieux solidaires qui font vivre à leur manière la lutte contre le fascisme. Nous sommes tous antifascistes. Un cri inclusif de rage et d'espoir. Le cri d'une foule puissante de personnes qui agissent chaque jour pour créer des liens et des solidarités. Et c'est à elles que nous tendons notre micro toute l'année. Pour se rappeler que nous ne sommes pas seuls et que la lutte flamboiera tant qu'il le faudra.
Salut tout le monde, bienvenue dans Siamo Tutex, l'émission où on mêle jeux de mots pas ouf et lutte contre les idées nauséabondes qu'on voudrait garder enfermées à tout jamais dans nos livres d'histoire. Avec l'équipe de Siamo Tutex, on s'est donné pour objectif de documenter modestement les solidarités qui rendent la vie plus douce. Celles qui luttent contre les idéaux fascistes qui voudraient faire de nous des êtres malheureux, malheureuses, isolés et méfiants, méfiantes les uns une des autres. Cette lutte douce et joyeuse, elle est déjà là tout autour de nous. Et on tend notre micro chaque mois à des personnes qui agissent dans leur quotidien pour créer des liens autour d'elles, sans forcément se revendiquer de l'antifascisme d'ailleurs. Aujourd'hui, on va s'aventurer du côté de celles dont on ne questionne pas beaucoup le rôle, sauf pour justifier les arguments racistes et classistes. On va parler des enfants, des parents, des familles. Alors on va pas parler petits pots de compote, ni couches lavables, pas vraiment non plus des plus beaux toboggans de Nantes. On va parler antifascisme. Et oui, au-delà du fait qu'on pourrait vous bassiner avec l'idée que tout est politique, il y a un lien. Pour discuter ce lien, on a autour de la table Héloïse, à la fois à la technique et à l'interview sur cette émission. Bonjour Héloïse.
Salut. Et oui, c'est la magie de la radio de pouvoir faire plein de choses. Je suis ravie de vous retrouver pour cette émission et puis de vous faire découvrir nos invités du mois.
À ta droite, on a Enora qui musclera encore nos cerveaux avec une chronique culture passionnante. Salut Enora.
Salut, salut. Je vous ai dégoté un petit documentaire pour étoffer notre sujet du jour.
Et en face de toi, on retrouve Lilia, qui après avoir animé deux émissions, récupère la casquette de chroniqueuse engagée. Salut Lilia.
Youhou, salut.
Et cette semaine, c'est moi, Céleste, qui anime l'émission. On va essayer, pour le temps d'une heure, de vous faire oublier l'hiver qui pour certaines rime avec coup de budgétaire. Alors restez avec nous. Lilia, je te passe le micro pour nous éclairer sur le lien qu'on peut faire entre parentalité et lutte contre les idées fascistes.
Merci Céleste. C'est vrai que quand on vous a dit qu'on allait parler d'antifascisme et de parentalité, vous vous êtes peut-être demandé si vous vous étiez pas trompé d'émission. C'est vrai que quand on entend ça, on ne se dit pas que les deux sujets sont liés, surtout que l'enfance ou la vie de famille ont quand même souvent une image un peu rose-bonbon, trop choupie. Enfin, quand on me parle de parentalité, j'imagine pas le petit Théo, 8 ans, faire un sitting contre la sortie scolaire au Puy-du-Fou et ses parents taguer 13-12 sur les murs de la préf. Même si j'aime beaucoup l'idée. Et puis, on a rencontré l'équipe incroyable de la Presqu'île aux Dervalières. Grâce à elle, on s'est rendu compte que la parentalité, c'était surtout une affaire d'individu au sein de la société actuelle, une affaire de choix. Celui de devenir parent ou non, par exemple, une affaire aussi de conditions de vie et de privilèges pour se construire et élever ses enfants. Grâce à elle, on a compris que des inégalités pouvaient sauter aux yeux quand on devenait parent et que de nombreux parallèles pouvaient être faits avec certains aspects du fascisme décrits par Umberto Eco, notre fil rouge pour ces émissions. On en reparlera dans la chronique de fin, mais la parentalité, c'est politique. Sur la question du machisme déjà. Qui de vous s'est déjà entendu dire « Alors le bébé, c'est pour quand ?» Alors que vous n'en avez jamais parlé, ou « Ah mais c'est normal de bosser moins pour bien t'occuper de ton enfant pendant que son père va chasser le mammouth ?» Bon, je grossis le truc, mais vous voyez l'idée. Il y a la question des politiques natalistes, des inégalités de genre qui explosent à l'arrivée d'un enfant, des difficultés d'accès à la parentalité pour les familles LGBTQIA+, les attaques au droit à l'avortement. Sur la question du racisme et de la norme aussi. On est dans un système d'éducation un peu unique, uniformisé, où les autres modes d'éducation sont parfois stigmatisés et où souvent les familles non blanches vont être perçues comme moins capables, voire maltraitantes. Devenir famille peut aussi rimer avec isolement. Si t'as pas ta propre famille ou un cercle social assez présent pour t'accompagner et t'aider dans ta parentalité. Et la question financière vient aussi accentuer cette tendance. Enfin bon, comme vous voyez, il y a forcément beaucoup de connexions à faire et vous en aurez sûrement de votre côté.
Merci Lilia pour ces précisions. Alors j'ai l'impression que mon cerveau a déjà commencé à tirer plein de fils entre parentalité et solidarité. Et maintenant, grâce à la magie du montage, vous allez pouvoir écouter Anne-Laure et Ghislaine de la Presqu'île qui répondent aux questions d'Héloïse au micro de Léo, presque comme si tout ce joli monde était en studio avec nous. C'est parti.
Ce que vous entendez là, ce sont les sessions de jeu de la Bonne Pioche, un lieu convivial et unique en son genre, mi-ludothèque, mi-refuge et lieu d'information pour les parents du quartier des Dervalières à Nantes. On peut pousser sa porte 3 fois par semaine, en famille ou pas, pour une partie de jeux de société, des cafés-discussions avec d'autres habitants, parents ou grands-parents, ou encore venir y chercher de l'information sur toutes les questions que l'on peut se poser quand on s'occupe et qu'on éduque des enfants. Ce lieu, il a été imaginé et il est géré par les bénévoles d'une association qui se nomme La Presqu'île. Depuis plus de 20 ans, La Presqu'île accueille les enfants sur des temps courts pour permettre à leurs parents de s'investir dans la vie citoyenne du quartier. Elle s'est aussi donnée pour mission de faire du lien avec les parents, de tendre un pont entre elle et eux, pour que chacun se sente moins seul face à l'océan de questionnements que peut parfois représenter la parentalité dans le monde actuel. Et ça, participer à créer des solidarités et faire avec les habitantes et les habitants, jamais à leur place, c'est un super rempart aux idées fascistes. Et maintenant, on va quitter les locaux de la Bonne Pioche pour aller retrouver Anne-Laure et Ghislaine, toutes deux membres du conseil d'administration de la Presqu'île, dans un lieu un peu plus calme pour leur poser quelques questions. Anne-Laure, tu as eu plusieurs vies en tant que travailleuse sociale et bénévole associative, notamment ici dans ton quartier, en tant que maman de 4 enfants aussi. Et tu t'es lancée récemment dans un nouveau défi professionnel puisque tu as fait ta première rentrée cette année en tant que professeur des écoles. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Ghislaine, tu es, je crois, ce qu'on pourrait appeler une bénévole super investie. Super investie dans ton quartier, super investie auprès de ta famille, super investie pour aider les autres. Tu es maman solo de 4 enfants et maintenant mamie de 7 petits-enfants dont la plus jeune vient tout juste de naître. Bonjour Ghislaine et merci de répondre à nos questions.
Bonjour.
Alors, vous avez toutes les deux un point commun, c'est d'être arrivée à la Presqu'île parce que vous vouliez pouvoir vous investir dans les assos de parents d'élèves pendant la scolarité de vos enfants. Anne-Laure, qu'est-ce qui fait que les associations de parents d'élèves, c'est souvent la première porte d'entrée pour arriver à la Presqu'île ?
Alors, c'est vrai que les écoles, en général, sont toujours en demande d'avoir des représentants de parents d'élèves. Donc, les associations, pour moi, ça a été la CSF, m'a recrutée, on va dire, à l'école chez Zine. Et c'est vrai que la difficulté première des parents pour s'investir dans ces associations de parents d'élèves, c'est que bien souvent, ils ont des petits-enfants ou des plus grands-enfants qu'il faut garder pendant les temps de réunion que demande l'école, par exemple le conseil d'école ou les réunions de rentrée scolaire, par exemple. Et pour que les parents puissent participer à ces réunions, c'est vrai que la Presqu'île propose des temps d'accueil pour ces enfants sur le lieu de réunion, donc à l'école en général, à l'école, pour que les parents puissent s'investir. Ce qui, en fait, enlève la responsabilité des parents de garder leurs enfants pendant ces temps de réunion et ils peuvent s'investir plus librement dans l'association de parents d'élèves.
Et maintenant, ça dépasse les réunions de parents d'élèves, par exemple. Ça peut être plein d'autres engagements citoyens.
Oui, parce que la Presqu'île, son premier objectif, c'était de permettre aux parents de participer à la vie citoyenne du quartier de Dervalières. Maintenant, ça a pris un peu plus d'ampleur, on est un peu plus loin que le quartier, on peut avoir des sollicitations en dehors du quartier, mais ce n'est pas uniquement sur les réunions de parents d'élèves, ça peut être des réunions, j'ai pas d'exemple en tête tout de suite, mais je ne sais pas, des réunions de conseils citoyens, des réunions qui permettent aux parents de développer leurs actions sur le quartier.
Ghislaine, toi tu es arrivée à la Presqu'île en 2000 et tu ne l'as plus quittée depuis. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, l'association ?
Bah, moi, ça m'a permis d'avancer, parce que, ayant vécu des épreuves dures, voilà, ça m'a permis, avec Valérie, bah, j'ai appris plein de choses, à faire de l'informatique, et bah, de m'investir plus dans la vie du quartier.
Par exemple, tu as fait quoi dans le quartier ?
Sur le, comment ça s'appelle, les constructions, sur la place, d'aller dans les autres associations.
Et en tant que parent, qu'est-ce que ça a pu t'apporter ?
Bah, ça valorise en tant que parent, puis ça donne un exemple à ses enfants.
Une question pour vous deux. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui se tournent vers la Presqu'île ?
Moi, je dirais qu'il y a plus de femmes.
Ouais.
C'est très rare, les hommes.
Et pourquoi, d'après vous, il y a plus de femmes que d'hommes qui viennent ?
Bah, déjà, il y a la configuration du quartier qui fait qu'on a énormément de familles monoparentales. Et malheureusement, bien souvent, ce sont les femmes qui sont seules avec leurs enfants. Et puis, voilà, les questions éducatives restent encore malheureusement très féminines. Et les papas sont plus rares sur ces actions d'accompagnement à la parentalité.
Et est-ce que vous auriez des exemples de difficultés que les personnes que vous accueillez peuvent avoir dans leur vie ?
Bah justement, le fait que ce soit beaucoup des familles monoparentales, on leur demande de s'investir, mais ils n'ont aucun relais. Ils n'ont pas l'autre parent comme relais de garde pour leurs enfants. Il faut que ces femmes, je vais parler des femmes puisqu'en général ce sont beaucoup des femmes, on leur demande d'aller travailler mais il n'y a pas forcément de moyens de garde pour les enfants, on leur demande de s'investir dans l'éducation de leurs enfants, de s'investir dans leur vie professionnelle parce qu'il faut bien manger et de s'investir dans la vie du quartier et c'est compliqué et je pense que la presqu'île justement est un bon relais pour ces familles là pour leur permettre d'avoir déjà une écoute attentive à leurs problèmes de la vie quotidienne et puis dédramatiser un peu tout ce qui est la vie autour et puis leur dire que déjà ce qu'elles font c'est très bien en fait.
Ouais.
De ne pas apporter de jugement sur comment elles peuvent organiser leur vie. Quoi.
Dans les exemples que vous donniez, enfin toi dans ton exemple personnel et puis... toi, Anne-Laure, dans des exemples plus génériques que tu pouvais donner, vous sembliez nommer une certaine précarité de ces femmes. Comment vous pouvez les soutenir, vous, à votre échelle, face à ces questions de précarité ?
Alors déjà, moi, je pense que le point le plus important, c'est de ne pas juger. C'est-à-dire que ces familles, elles font ce qu'elles peuvent, elles font avec ce qu'elles ont. Que ce soit financier ou même, on va dire, même leur parcours éducatif et leur parcours de vie. Donc, ne pas juger. Et dans le soutien à la parentalité, c'est de les écouter. Ce qui est important aussi, c'est qu'elles puissent se rencontrer, ces familles puissent se rencontrer entre elles et se rendre compte que, en fait, les problèmes d'éducation et de parentalité, c'est universel. On a toutes les mêmes problèmes, toutes les mêmes questions, indépendamment de notre origine ou de notre niveau socio-professionnel. On va avoir les mêmes problématiques face aux enfants. Et ça, c'est universel. Le fait de leur montrer que on est toutes dans le même bateau, je pense que ça peut les soutenir. Moralement déjà.
Ghislaine, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non.
Ok. Et est-ce que le sujet de la pression sociale, c'est un sujet qui est souvent abordé dans les discours des femmes que vous accueillez, si on se focalise sur les femmes ?
Oui, parce que quand elles vont, par exemple, dans les institutions, que ce soit malheureusement l'école, la mairie ou d'autres institutions quelconques, hein, la CAF, la Sécu, enfin, les grandes institutions françaises, on va dire, on a, je dis parce qu'on peut s'inclure aussi des fois dans des regards un peu jugeants sur ces familles, on a un modèle de parentalité idéale qui rentre dans les cases, on va dire, du modèle parental occidental. On va exiger de ces femmes qu'elles rentrent, enfin ces femmes ou ces familles, qu'elles rentrent dans le moule de l'éducation, je vais dire européenne, mais française, on va dire, de base, et que dès qu'elles sortent un peu du cadre, c'est un peu dérangeant. Et alors que il n'y a pas d'éducation. Enfin, je connais pas une seule famille qui va me dire que ses enfants sont les mieux éduqués du monde et qu'ils ont trouvé l'éducation parfaite. Je ne pense que ça n'existe pas. Et que tout est bon à prendre en fait.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on cale du coup des étiquettes de mauvaise mère sur ces mamans-là. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous ressentez dans les personnes que vous accueillez ici?
Oui, des fois, oui, les mamans qui sont reconnues seules, elles sont mal étiquetées. Oui, mais c'est pas parce qu'on est une maman seule qu'on ne veut pas s'en sortir.
Et puis, en fait, voilà, les mamans, enfin, les familles qu'on rencontre, on parle toujours des mamans, mais en fait, c'est vrai, c'est ça. Surtout sur le quartier, donc, comme on disait, on a une population sur le quartier de mamans, enfin, de familles monoparentales en grande précarité, certaines familles issues de l'immigration. Et comme je disais, on colle des étiquettes. Et alors, pour le peu qu'en plus, ils aient des enfants qui ne soient pas dans le cadre, pas des enfants ordinaires, c'est-à-dire qui peuvent avoir des soucis autres, on va leur demander d'être beaucoup plus présente avec les enfants à l'école. On va leur demander aussi d'apporter un confort financier à leurs enfants, mais en étant présent à l'école. Ce n'est pas compatible avec un emploi à temps plein. On va leur demander de faire le suivi de leurs enfants. On sait que même si on est dans une grande ville, le suivi médical des enfants, ça commence à devenir très compliqué. Les listes d'attente s'allongent pour les orthophonistes, pour les psychomotriciennes, pour tout ce qui est autour de l'école. Et on va se permettre de juger ces femmes-là en disant « Oui, bon, ils font pas d'efforts, quoi. » Ils ne font pas d'efforts, ils vivent du RSA, ils ne s'occupent pas de leurs enfants, alors que ce n'est pas vrai. Et je trouve qu'on colle très vite, on va coller plus vite une étiquette sur une maman solo. On va coller encore plus vite une étiquette sur une maman solo d'origine étrangère. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage et dangereux.
Et on est de retour en studio. On fait une petite pause dans l'interview qu'on retrouve juste après la chronique culture. C'est vrai qu'à l'écoute de leurs témoignages, je me dis que la parentalité, on la questionne peu. Alors sauf pour tartiner les chaînes d'infos en continu de rhétorique machiste. On en parle au moment des faux débats sur le mot parentalité, ou alors au moment de l'allocation de rentrée, qui servirait, oh, malheur, désespoir, hécatombe, combat de priorité nationale, à acheter des consoles de jeux vidéo. Oh. On donne alors souvent le mauvais rôle à ses parents hors normes. Ça y est, j'ai réussi à placer mes guillemets. Les mères qui élèvent seules leurs enfants et qui ont toujours, quoi qu'elles fassent, le mauvais rôle. Comme si en vrai elles pouvaient gagner au jeu de « si tu travailles, tu n'aimes pas tes enfants. Si tu ne travailles pas, tu ne mérites rien. Et si tu travailles et que tu t'occupes de tes enfants et que tu as le malheur d'être fatiguée, c'est ta faute. » En fait, on leur fait croire et on nous fait croire que c'est toujours de leur faute. Et pas du système capitaliste patriarcal qui pipe les dés dès le début. Alors quoi de plus rageant pour le système que des mères fortes et organisées qui se positionnent comme sujets politiques agissants et qui se battent pour leurs droits et ceux de leurs enfants. Et c'est toi, Enora, qui va nous raconter leur lutte.
En effet, et pour vous parler de ces mères en lutte, je suis allée traîner mes lunettes d'intello du côté d'un documentaire, mais un documentaire en bande dessinée ce mois-ci. Si j'avais été cynique et un peu tire-au-flanc, je vous aurais présenté ma chronique culture amputée de 73% de son contenu, comme semble l'appeler de ses voeux Madame Morancet, notre présidente de conseil régional. Elle aussi, c'est une mère en lutte contre l'idée que les enfants qui n'appartiennent pas à sa classe sociale bourgeoise accèdent à la culture et au sport. Mais je vais plutôt vous parler de mères qui luttent pour l'égalité des chances et des droits par nécessité. J'ai déniché dans le numéro 44 de la revue dessinée le documentaire « Mère en pleine tempête ». Ce numéro, il est sorti cet été. Le documentaire a été réalisé par Justine Rodier et illustré par Paul Ray. Ce n'est pas un documentaire qui décrypte ou qui donne une analyse politique. Simplement, il témoigne du quotidien et de la vraie vie des mères solos des quartiers populaires de Marseille. Cette bande dessinée d'une vingtaine de pages donne la parole à Farida, la mère de Sofiane, devenue guetteur à peine 15 ans. Ils vivent dans les quartiers nord de Marseille, où les règlements de compte sont devenus des narcomicides, des assassinats liés au trafic de stupéfiants. Farida nous livre son quotidien de mère célibataire, nous raconte ses inquiétudes quotidiennes, les allers-retours de son enfant placé en centre éducatif fermé, puis en prison pour mineurs. Chaque fois qu'il sort, elle essaye de lui mettre un cadre, de le motiver à reprendre sa formation, appelle quotidiennement son éducatrice sociale. De manière très fluide, la BD passe aussi la parole à Mohamed Tir, éducateur dans un centre social de Marseille, qui nous raconte comment les centres sociaux travaillent à détourner les jeunes des réseaux de trafic de drogue, par des activités notamment. Il nous explique comment ces réseaux fonctionnent et comment ils appâtent les jeunes, déjà fragilisés par la précarité et l'ennui. Il parle de la vigilance collective des habitants et habitantes de ces quartiers qui permet de sortir certains jeunes du trafic, mais aussi des jeunes qui viennent d'autres quartiers et qui, eux, sont piégés par les réseaux, qui les séquestrent et même les tabassent parfois. Je ne vous spoil pas tout, mais sont abordés aussi des destins plus funestes, comme celui d'un des fils de Bouchra qui a été assassiné par ces réseaux de trafic de drogue. Je vous parle de ce documentaire parce que je l'ai vraiment apprécié, parce que loin d'être misérabiliste, il nous propose un récit de première main qui permet d'entrer en empathie avec ces familles et de sortir des clichés véhiculés par le gouvernement et ses sbires médiatiques. Ces derniers ne cessent de taxer de démissionnaires les parents de milieux populaires, faisant fi des réelles conditions de vie dans ces quartiers, depuis longtemps abandonnés par l'État à la précarité, au trafic de drogue, et où les services publics tombent en ruine, le tout saupoudré de racisme systémique et de violences policières. Le gouvernement se dédouane d'une situation dont il est responsable, en accusant des parents de ne pas faire leur travail de parents, sachant pertinemment que ces familles ne pourront pas présenter de contre-discours, puisqu'ils sont déjà stigmatisés par des clichés racistes et classistes. Si on regarde cette situation à la lumière des critères de fascisation d'Umberto Eco, je dirais qu'on peut ici parler d'élitisme populaire. L'État divise pour mieux régner. D'un côté, les bons parents et les bons immigrés, de l'autre, les mauvais, les coupables. Et cette scission artificielle nous empêche de nous rassembler pour lutter pour ce qui importe réellement à tous les parents, que l'État fasse son travail pour permettre à tous les enfants de grandir en paix, d'apprendre dans de bonnes conditions et d'avoir les mêmes chances que tous les autres pour devenir des adultes épanouis.
Merci Enora pour cette chronique. Est-ce que vous êtes comme moi, énervée et déterminée? Alors pour continuer sur cette énergie, je vous propose d'écouter Antiraciste de Kez.
Injustice in our own country, or we will restructure their function and ours. Now,
vous êtes de retour sur Prune 92 FM dans Siam au Toutex, l'émission où on explore l'antifascisme pour tous, tous les premiers samedis du mois. Cette semaine, on a tendu le micro à Anne-Laure et Ghislaine de l'association La Presqu'île. À travers leurs témoignages, on tisse des liens entre des parentalités libres, choisies et empouvoirantes, et la lutte contre l'isolement, le sentiment de frustration, et la lutte contre l'isolement et le sentiment de frustration, deux instruments chouchous du fascisme. Je vous propose de les retrouver tout de suite pour la deuxième partie de l'interview. Héloïse, à toi de jouer.
La Presqu'île, c'est une asso où vous menez plein d'actions et vous proposez plein d'activités différentes, notamment pour lutter contre la précarité, la pression sociale dont on parlait, mais aussi, je crois, pour rompre l'isolement. Et parmi la multitude d'activités que vous proposez, j'en ai retenu certaines, parce qu'il y en a énormément. Vous informez et mettez en lien avec des professionnels pour donner des pistes aux parents qui se questionnent. Vous organisez des ateliers et des sorties pour les adultes. Vous, avec d'autres assos du quartier, vous avez lancé des paniers solidaires pour lutter contre la précarité alimentaire aussi. Et puis, j'ai l'impression, vous adorez créer des lieux de convivialité et d'échange avec la Bonne Pioche, on en a parlé, mais aussi avec un potager participatif, je crois.
Oui, donc on est un petit groupe, on fait le potager de mars à octobre, parce qu'après c'est l'hiver. Ça permet aux gens de, d'échanger sur le jardinage. C'est un lieu de beaucoup de passages.
Ouais.
Et puis on discute. Et ça permet aux personnes qui sont seules de rencontrer d'autres gens. Ça permet de créer du lien. C'est très important.
Pourquoi c'est si important ?
L'être humain, pour moi, il n'est pas fait pour être seul.
Et du coup, cette création du lien, elle semble vraiment au cœur de votre action. Et j'aimerais qu'on puisse parler d'une activité que vous proposez aussi chaque semaine à la Bonne Pioche. C'est les cafés parents et grands-parents. Pourquoi vous avez créé ces rendez-vous ?
Alors, c'est Patricia qui a décidé de faire le mardi le café des grands-mères, enfin des grands-parents, pardon, et le jeudi le café des parents.
Et il y a toujours du monde ?
Oui, il y a toujours du monde.
Ouais. Et pourquoi, du coup, à quoi ça sert ces cafés ?
Ça permet d'échanger sur notre rôle de grands-parents. Et après, au niveau du café des parents...
Et c'est quoi le rôle des grands-parents, du coup ?
C'est d'être présent pour ses petits-enfants, de ne pas faire surtout à la place des parents, et de les soutenir. On peut les soutenir, mais surtout, je dis bien, de ne pas faire à la place. C'est très important.
Anne-Laure, est-ce que tu veux compléter sur les cafés des parents sur le...
Justement, oui, la volonté a été de séparer les parents et les grands-parents, parce que comme l'indique Ghislaine, ce n'est pas le même rôle. Les grands-parents ont une place de grands-parents, les parents, la place d'éducateurs de leurs enfants. Et c'était important de séparer, puisqu'à la Presqu'île, on a... comme ça fait plus de 20 ans que la Presqu'île est installée sur le quartier, on a des enfants, des mamans qui avaient des enfants en bas âge il y a 25 ans. Les enfants en bas âge sont devenus grands, sont devenus eux-mêmes parents. Donc on a vraiment trois générations à la Presqu'île. Et c'était le fait de séparer, c'était vraiment une volonté de que chacun puisse conserver son rôle et son identité auprès de ses petits-enfants, pour les premières mamans qui sont arrivées à la Presqu'île.
Et qu'est-ce qu'on y fait dans ces cafés parents ou grands-parents ?
Alors moi, qu'est-ce qui s'y dit ? Peut-être une petite souris. J'ai vu une ou deux fois, mais c'est vrai que je suis moins présente sur les cafés parents et grands-parents. Je pense que Ghislaine, tu pourrais peut-être plus raconter ce qui se passe, parce que moi, je ne suis pas souvent.
Alors, en ce qui concerne le café des grands-parents, on a proposé les jeux qu'on jouait quand on était petit. Et si tout va bien, l'année prochaine, on montrera aux enfants que nous, on jouait par exemple, je donne le tac-tac, là, tac-au-tac, la corde à sauter, le palais. Et c'est pour montrer aussi aux enfants, c'est pas une leçon qu'on veut donner, mais que ça change, on n'avait pas des jeux vidéo et tout ça.
Oui. Et quand les parents ils viennent, c'est pour parler de leurs soucis à la maison, c'est pour parler de leur rôle de parent, c'est pour parler de quoi finalement ?
Y a un peu de tout ça. On parle du quotidien. Donc moi, je rapporte un peu ce que j'entends de ce qui se passe dans les cafés parents, puisque j'y ai participé au début, pas quand c'était à la Bonne Pioche, mais
quand on était plutôt avant la bonne pioche dans le bus, donc on avait des parents. Donc les parents venaient, voilà, ils peuvent parler de leur quotidien, ils peuvent parler de complètement autre chose. C'est vraiment un espace de liberté totale, on va dire, au niveau de la parole, c'est-à-dire libérer la parole, que ce soit le quotidien, hein, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, voilà, comment on peut s'organiser, enfin voilà, comment on peut s'organiser aussi avec les enfants, parce que j'en ai ras-le-bol qui ne range pas sa chambre. Enfin, ça peut être des préoccupations du quotidien, comme ça peut être des sujets un peu plus lourds, où là, Patricia et Valérie sont aussi là pour apporter un accompagnement supplémentaire et pouvoir réorienter vers des professionnels plus compétents s'il y a besoin.
Et souvent, les questions comme « mon enfant ne veut pas ranger sa chambre », c'est des questions qui reviennent, c'est un peu tout le temps les mêmes ou...
Bon, après, comme je disais tout à l'heure, hein, l'éducation, enfin les problématiques éducatives dans les familles, c'est un peu à peu près tous les mêmes. Quand ils arrivent à être ados, on râle parce qu'ils veulent pas ranger leur chambre, ils veulent pas prendre leur douche ou ils veulent pas faire la vaisselle. Mais voilà, c'est ce que je disais, c'est des préoccupations qui sont complètement universelles. C'est dans toutes les familles pareil. Tous les ados se ressemblent, tous les enfants se ressemblent, passent toujours par des phases comme un peu comme ça. Et c'est ça qui est intéressant parce que les familles, elles se rendent compte qu'elles ne sont pas toutes seules face à ces questions, même qui paraissent bénignes. Mais quand on a une situation, on est déjà en situation de précarité ces petits soucis du quotidien, ça peut enrayer la machine et devenir vraiment insupportable. Et le fait de voir que tout le monde a les mêmes préoccupations, que ça dédramatise un peu tout ça.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de contrôle de ce qui est un bon parent, ce qui est un mauvais parent, une bonne éducation, une mauvaise éducation ?
Ouais, il y a toujours le regard des gens qui envahit un peu. Après, suivant comment on est sensible au regard des autres, on peut s'auto-mettre une pression en disant « mais si j'envoie... tout bêtement, j'envoie mon enfant à l'école, son pantalon il est troué. Ça se trouve, on va me dire que c'est pas possible. Et puis, on risque de me signaler parce que j'ai envoyé mon enfant avec un pantalon troué. Il y a des parents qui vont aller dans l'extrême autre, qui vont envoyer leurs enfants, qui vont se saigner aux quatre veines pour acheter des vêtements de marque pour que leur enfant paraisse le plus beau possible à l'école parce qu'ils ont peur que si on les envoie avec un pantalon un peu usagé, on va les juger. Il y a une pression, comme je disais, il y a le modèle européen de l'éducation idéale. Et après, il y a la pression que se mettent les parents aussi, eux-mêmes, parce que comme ils se sentent déjà, pour beaucoup, se sentent inférieurs. Alors, beaucoup de parents issus de l'immigration vont se sentir inférieurs aux parents blancs. Pour dire les mots, ils vont se sentir inférieurs.
Et vous, à la presqu'île, vous ne mettez pas en avant un modèle d'éducation ou un autre, c'est pas forcément votre but ?
Ah ben non, le but justement, c'est de pas rentrer là-dedans, d'écouter surtout les parents, de prendre. Alors il y a des parents qui vont venir sur les cafés parents, il y a aussi des parents qui peuvent venir voir Valérie ou Patricia à la presqu'île et parler de sujets où ils n'ont pas envie d'en parler devant
Valérie
tout le monde.
Valérie, Patricia, les salariés de la presqu'île.
Oui, ils n'ont pas envie de parler devant tout le monde. Donc la presqu'île est toujours ouverte. Valérie a toujours laissé... Je dis Valérie parce que Valérie est là depuis plus longtemps. Donc elle a toujours laissé sa porte ouverte et elle a été aussi... ça a été aussi l'endroit, la presqu'île. C'est toujours l'endroit où les parents peuvent venir ouvrir la porte, déposer leurs problèmes sur la table. Et Valérie, alors c'est très moche comme mot, est un peu le réceptacle, on va dire, de toute cette misère du quartier. Et ça peut être lourd parfois, mais je pense que c'est nécessaire. C'est-à-dire que les familles savent qu'elles peuvent tout déposer sur la table, qu'il n'y aura pas de jugement, et que nous, on n'attend pas d'elles qu'elles rentrent dans un cadre de la maman idéale, d'ailleurs ça n'existe pas, donc voilà, ou ça existe si on porte un jugement sur les gens, puisque si nous on estime être une maman idéale, ça veut dire que tout ce que font les autres n'est pas bien, si c'est pas comme nous, voilà, le but de la presqu'île, c'est de pouvoir écouter les familles, les accompagner du mieux du mieux qu'on peut et pouvoir faire en sorte que ces familles vivent bien leur parentalité.
Mmh. J'avais une autre question, Anne-Laure, toi qui es récemment devenue enseignante, est-ce que tu penses que l'investissement d'un plus grand nombre de parents, par exemple dans les associations de parents d'élèves, ça pourrait permettre de questionner justement le modèle dont tu parlais, un peu le modèle proposé par l'institution qu'est l'éducation nationale. Est-ce que ça peut permettre de faire bouger un peu les lignes ?
Alors je ne vais pas dire que non, on n'a pas besoin de parents. Forcément, on a toujours besoin de parents à l'école. Et du côté enseignant, puisque je peux me mettre de l'autre côté de la barrière maintenant, du côté enseignant, le fait d'avoir beaucoup de parents et surtout dans un quartier, par exemple comme à Chézine, le fait d'avoir des parents issus de plusieurs nationalités ou plusieurs origines, ça permet aussi d'avoir un éventail des habitudes éducatives des parents. Ça permet d'avoir un autre regard sur certaines cultures qu'on ne connaît pas. Ça permet, et justement, je pense que ça enrichit le dialogue avec les écoles. Cette année, je suis hyper contente, puisque moi, je me suis retirée un peu de l'association de parents d'élèves. Je me suis mis un peu en marge. J'accompagne les nouveaux parents cette année pour qu'ils prennent la suite, puisque moi, je n'ai plus beaucoup de temps. Même si notre ancien président nous dit qu'on travaille que 24 heures par semaine. Mais cette année, je n'ai pas beaucoup de temps. Et donc, y a un groupe de parents où il y a des mamans et des papas de plusieurs origines différentes, de plusieurs nationalités différentes, avec des idées de partout. Une réflexion sur l'école complètement différente suivant du pays où ils viennent, puisque la culture à l'école n'est pas la même dans tous les pays du monde. Ils ont plein d'idées et je trouve ça hyper riche et je suis hyper contente de leur, on va dire vulgairement, leur refourguer l'association, parce que je sais qu'ils ont envie de faire plein de choses. Et cette richesse-là va permettre aussi de bouger les lignes. Forcément, ça va bouger les lignes, puisque dans certaines écoles, on peut, dans certaines écoles de certains quartiers, hein, j'en entends, hein, cette année, j'ai des collègues qui sont dans ces écoles-là, qui sont stagiaires dans ces écoles-là, où on a une image des parents, c'est des parents qui ne s'investissent pas dans l'école, quoi. C'est des parents qui n'en ont rien à faire. C'est pas qu'ils n'en ont rien à faire, c'est que dans certaines cultures, le fait que le parent rentre dans l'école, c'est comme si c'est montré, c'est un manque de respect envers les enseignants. C'est-à-dire que si je rentre dans l'école, ça montre que je ne fais pas confiance aux enseignants. Alors que quand je confie mon enfant à l'école, une fois qu'il est dans l'école, limite c'est les enseignants, les parents. Donc je n'ai pas à intervenir dans ce qui se passe à l'école. C'est une image, enfin c'est c'est une culture différente à l'école et elle se respecte. Après, il y a tout le dialogue qui peut s'installer autour de ça. Et je pense que c'est une richesse.
Et Gislaine, toi qui avais aussi été parent d'élève, qu'est-ce que ça t'a apporté de t'investir dans l'école de tes enfants ? Pourquoi tu t'es lancée là-dedans ?
Déjà pour mon enfant et puis pour tous les autres enfants, hein. Pas spécialement mon enfant, hein. Je dis bien. Hein. Dès la maternelle, moi j'étais parent d'élèves en maternelle, Châtaignier, primaire, collège, Le Breil.
Et pourquoi tu l'as fait ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ?
Déjà pour représenter les parents. S'ils avaient des questions, je reportais au conseil de classe, d'école.
C'était le plus important, transmettre les questions des parents.
Ah oui, c'était très important.
Et faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur de l'établissement.
Oui.
C'est ça ?
Oui.
Ouais. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus de vous. qu'est-ce que ça vous apporte de vous investir et de presque de lutter au quotidien? Ghislaine, qu'est-ce qui, pour toi, fait que personnellement, tu t'engages à faire du lien et à aider autour de toi? Pourquoi tu le fais?
Bah, déjà pour moi, et puis bah, ça me valorise, moi, en tant que maman seule. De... Parce que, comme on disait, d'être une maman seule, bah, c'était pas trop... Comment je pourrais dire? On est mal catalogué, ouais, comme ça, je dirais, oui. Au contraire, ça permet de dire ce qu'on pense et puis de rencontrer des gens.
Ouais. Et du coup, le fait d'aider pour toi, c'est quelque chose d'important?
Bah, c'est important, oui.
Et Anne-Laure, toi, qu'est-ce qui fait que tu t'engages finalement? Qu'est-ce que c'est le moteur de tout ça?
C'est de faire du sens, en commun. C'est-à-dire faire sens commun. On voit actuellement, on va pas vers une France qui a envie de se rassembler. Voilà, on essaye de nous diviser de partout. Hein. On essaye de nous individualiser, que chacun pense qu'à soi et n'essaye pas de se regrouper, d'échanger. Voilà. Et le fait de continuer à m'engager, c'est justement d'essayer de rassembler les gens, de leur montrer que d'où qu'on vienne géographiquement ou socialement, on peut se retrouver autour d'une problématique commune. Et à la presqu'île, c'est la parentalité. Pour moi, ça fait sens, ça. C'est-à-dire que, voilà, qu'on soit socialement en bas de l'échelle, comme on peut dire, ou en haut de l'échelle, ou au milieu de l'échelle, qu'on vienne d'un pays du milieu de l'Afrique, de l'Asie... de l'Amérique ou qu'on vienne qu'on soit français, pas français, pas d'origine française, tout bord, tout milieu, on a quelque chose qui peut faire sens commun, c'est par rapport aux enfants.
Et est-ce que c'est votre action quotidienne, elle vous apporte de la joie?
Oh bah, je pense qu'on n'a pas l'air très triste. Je pense qu'on n'a pas l'air très triste ni l'une ni l'autre. Après, des fois, ça peut être lourd. Je ne vous cache pas que oui, des fois, sur certaines problématiques, alors bien souvent, moi, que ce soit sur l'école ou dans le quartier, puisque j'ai travaillé aussi dans une association du quartier, où j'avais affaire aux habitants hein, du quartier. Des fois, on a des histoires qui sont lourdes à porter pour nous. Alors, je partage beaucoup avec Valérie, même si, voilà. On a toujours des relais, pas officiels, mais des relais. Voilà, au fil des années, on a développé des amitiés sur le quartier qui nous permettent aussi de poser un peu tous nos problèmes. Des fois, c'est lourd. Des fois, ça peut être compliqué pour les travailleurs sociaux, que ce soit Valérie. Enfin, moi, je vois même en tant que bénévole à l'école, des fois, on a des problématiques qui nous dépassent un peu. Ce n'est pas dans la majorité des cas. Et puis, on passe des moments chouettes quand même sur ce quartier, avec les habitants du quartier. On rigole bien. Voilà, il y a des moments plus tristes et des moments plus joyeux. Mais en somme, je pense que si on continue à s'engager, c'est que ça nous apporte plus de bien que de moments tristes ou lourds.
Et toi, Ghislaine, est-ce que ça t'apporte de la joie?
Oui, très. Oui, ouais. Oui, oui.
Ça
moi, j'essaie toujours d'être de bonne humeur, malgré les épreuves, des fois, voilà. C'est important.
Et ça, tu le ressens autour de toi, que le fait que toi, tu sois heureuse d'être là, de militer, de t'engager, ça, c'est communicatif?
Ah oui?
Ouais.
Oui.
Qu'est-ce que vous diriez à des parents ou des grands-parents qui peuvent nous écouter et qui pourraient avoir envie de créer quelque chose un peu comme la presqu'île? Est-ce que vous auriez envie de leur dire quelque chose en particulier?
Bah, il faut y aller.
Ouais.
il faut le faire. Pour créer une association, on va dire légalement parlant, il faut être deux. Donc on n'a pas besoin d'être 50 personnes pour créer une association. Il faut être deux. Après, s'il y a des parents qui veulent créer une association comme la Presqu'île dans un autre quartier, elles peuvent venir déjà nous rencontrer, voir comment on vit et comment on fait à la Presqu'île, et puis s'inspirer ou pas. Ils peuvent créer quelque chose de complètement nouveau. Ils ont peut-être des nouvelles idées. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Je pense que c'est vraiment... c'est beaucoup de positif. Mmh. Beaucoup de positif.
Merci à toutes les deux pour cette interview. Merci.
De rien.
Merci.
De rien. Merci.
Oh, pardon, c'est à moi. J'étais en train de regarder dans mon agenda si j'avais la dispo pour m'engager dans une association d'accompagnement de la parentalité. Ça a l'air passionnant, tellement puissant, moi aussi je veux en être. Bon, alors en attendant, on remercie chaudement Anne-Laure et Ghislaine d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, d'avoir partagé leur vécu de mère et de personne engagée pour plus de solidarité. On continue sur Prune 92 FM avec une interlude musicale. Je vous propose d'écouter un des titres qui figure dans la liste de mes chansons les plus écoutées de l'année 2024, c'est Chaudasse de Kalika.
Tant pressé de leur dire à quel point ils m'auraient fait jouir. Pourquoi faudrait-il que je passe encore une fois pour la chaudasse? Pourquoi le mec serait pas fautif? C'est lui qui dégrafe les soutifs. Pourquoi faudrait-il que l'on passe encore toujours pour des chaudasses? R, T, où hier qu'on me demande ta vélée. T'étais à l'air, c'est ça, tu cherchais à te vendre.
On est toujours sur Prune dans l'émission Siamotoutex qui déboîte les idées fascistes à coups de joie et solidarité. On vient d'écouter deux membres engagés de la Presqu'île, une association qui lutte pour des parentalités plus libres et apaisées. Si j'arrive maintenant à percevoir qu'investir la parentalité et les liens familiaux participent à la lutte contre le fascisme, j'ai toujours dans un coin de ma tête cette relation difficile à la parentalité. D'un côté, on nous retire le choix d'être parents. on nous la pose au nom d'un contrôle des corps ou d'un réarmement démographique. Ou alors on nous en empêche au nom d'une pseudo-sainte dualité du papa et de la maman. Pas simple de se projeter dans un rôle ou une posture de parent quand faire famille implique tant de contradictions et de coercitions. Lilia, je crois qu'on est un peu dans le même bateau sur ce coup-là et que tu tenais à nous parler du lien entre décision politique et parentalité.
Oui, et je crois surtout qu'on a les mêmes rêves. Faudrait qu'on se fasse un quiz des pires citations politiques un jour.
Réarmement démographique.
Donc, la question de la parentalité, du choix réel, de ce qu'elle implique, de ces inégalités de genre, tout ça, ça nous a fait pas mal cogiter et ça nous a donné envie de mettre en lumière l'importance du choix et du droit à la parentalité. Il y a un an, donc, comme le disait Céleste, Macron nous faisait une des sorties incroyablement méprisantes dont il a le secret, qu'on aimerait ne pas collectionner, en parlant de volonté d'un réarmement démographique. La rhétorique militaire l'a rendue d'autant plus violente et angoissante, même si on est sorti depuis longtemps de la vision de la natalité comme un lien avec la puissance de la nation. En tant que militante et militant des droits humains, on a entendu le sous-texte anti-immigration de ce discours. Oui, à plus d'enfants, mais de femmes françaises et blanches, s'il vous plaît. En tant que féministe, on a aussi entendu un sous-texte de remise en cause potentielle du droit à l'avortement. Ça, c'est sur le corps des personnes en capacité d'enfanter, mais il faudrait aussi parler de tout ce qui se passe après la naissance d'un enfant. Les structures d'accueil ne sont pas assez nombreuses, et en 2023, j'ai lu que 160 000 parents se retrouvaient sans mode de garde, donc ni place en crèche, ni assistant parental. Et les inégalités se creusent davantage une fois un enfant arrivé dans le foyer, principalement chez les couples hétéros. Déjà, le simple fait que le congé paternité ne soit pas de la même durée que le congé maternité est un problème, et c'est en grande majorité la mère qui va rogner sur son temps de travail ou sa carrière pour élever son enfant, qui va engranger plus de tâches domestiques que le père, bref, qui va se retrouver avec un double emploi, l'un salarié, l'autre invisible. C'est pour ça aussi qu'on parle de droit à la parentalité. Ça convoque des choses beaucoup plus larges. La lutte contre les inégalités de genre, la sécurité sociale, les allocations familiales, les figures de soutien autour de soi. Et c'est là que c'est important aussi de reposer la question des normes de la parentalité. Pour moi, ça dépasse ce qu'on appelle la famille nucléaire, donc les parents et frères et sœurs. Quand des familles sont isolées, et c'est souvent le cas des familles monoparentales qui ont beaucoup plus de risques d'être ultra précaires, c'est important de pouvoir imaginer d'autres formes de parentalité. L'expression « il faut un village pour élever un enfant », ça m'a toujours beaucoup parlé, et j'imagine pas d'enfant dans ma vie en dehors de ce schéma. Et l'association Presqu'île répond d'une certaine manière à ce proverbe. Elle ramène dans la ville un système qu'on trouve plus facilement en campagne, des liens, de nouvelles possibilités pour les parents et pour les enfants, et c'est beau. Bon, là on parlait de difficultés dans la parentalité, mais il y a un autre sujet, tout autant voire encore plus choquant. Ce sont les parentalités empêchées. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Ben, on parle du fait que la parentalité aujourd'hui n'est pas accessible à tous et que c'est le fruit de décisions politiques. Par exemple, l'infertilité grandissante à cause des perturbateurs endocriniens, donc de la pollution. On est moins fertile et moins longtemps, et au-delà de l'aspect technique, se pose aussi la question que la majorité de notre génération a sur les lèvres. Si je fais un enfant, là, maintenant, dans quel monde je vais l'élever? Et à quoi va ressembler sa vie avec la crise climatique? Les parentalités empêchées, c'est surtout l'interdiction de la PMA aux personnes trans. C'est l'interdiction de la GPA en France, et donc la quasi-impossibilité pour un couple gay d'avoir un enfant. Petit point positif d'ailleurs là-dessus, heureusement une décision de justice d'octobre 2024, donc c'est très récent, reconnaît la filiation des enfants nés par GPA à l'étranger. Donc pour l'instant, on reste quand même sur un système assez hypocrite, ok pour des familles reconnues officiellement, mais pas de GPA chez nous. Merci de faire un petit aller-retour en Belgique. On arrive au plus dur. En France, en 2023, on demande la stérilisation des femmes. Ouais, vous avez bien entendu. L'Agence régionale de santé, l'ARS, de Mayotte, propose, et là, le retour des R guillemets, aux jeunes femmes de se faire ligaturer les trompes pour répondre à des problématiques de sécurité et de santé. Je sais pas vous, mais ça me fait froid dans le dos. On notera au passage qu'on préfère stériliser des femmes plutôt que de leur permettre d'avoir accès à un système de santé et d'éducation qui leur permettrait d'élever leur enfant dans de bonnes conditions. Cette proposition, ça rappelle un historique très peu flatteur pour l'État français, stérilisateur de force. Jusqu'en 2016, les personnes trans devaient justifier, entre guillemets à nouveau, le caractère irréversible de leur transition pour pouvoir prétendre à un changement d'état civil. Donc en gros, il y a encore 8 ans, l'État conditionnait la jouissance du droit à l'autodétermination à un processus de stérilisation. Plus ancien mais tout aussi scandaleux et gardé bien au chaud dans le placard, on retrouve la stérilisation forcée et organisée par l'État français des femmes dans les départements d'outre-mer dans les années 60 et 70. Clairement, ça pourrait faire l'objet de toute une émission, les politiques racistes des États colonialistes appliquées aux personnes sexisées. Et on y reviendra sûrement au cours de l'année, mais cette chronique est déjà assez longue, on va passer à la conclusion.
Moi, j'avoue que, autant au début, quand on a commencé à relier parentalité et fascisme, c'était flou. Et autant maintenant qu'on a écouté Anne-Laure, Ghislaine et vos super chroniques, je vois tellement de fils qu'on peut tirer entre la façon de faire famille, de relationner aux enfants et la lutte contre l'extrême droite. Par exemple, je trouve super intéressant de questionner la place des enfants. Ils et elles ne sont jamais vraiment perçus comme des sujets politiques. C'est toujours des êtres dont il faudrait s'occuper ou gérer. On agit collectivement comme si les enfants n'avaient pas d'avis, de revendications ou de capacité d'organisation. Leurs corps ne leur appartiennent quasiment pas, on prend beaucoup de décisions à leur place et en fait on les consulte que rarement. Et en parallèle de les déposséder de leur capacité d'agir, on les surresponsabilise et on leur refuse la possibilité de découvrir, à leur rythme, le monde qui les entoure. On arrive quand même aujourd'hui à défendre l'assassinat d'un enfant sur la base d'arguments racistes en présentant les enfants dits des quartiers comme des délinquants qui mériteraient de se faire tuer parce qu'ils volent des scooters. Du coup, politiser la place des enfants dans l'organisation collective, ça me paraît une bonne façon de les accompagner dans leur apprentissage du jeu social et le développement de leur esprit critique. Des enfants finalement bien outillés pour résister à l'appel des sirènes fascistes.
C'est vrai que la place politique des enfants, ça fait partie des sujets qui sont un peu des angles morts à gauche, tout comme la parentalité, je pense, en préparant cette émission. C'est en tout cas beaucoup la réflexion que je me suis faite. Dans le sens où ça m'a rappelé que j'ai longtemps pensé que je ne pouvais pas être une bonne féministe et ou une bonne écolo et vouloir des enfants. C'est vrai que dans les milieux militants de gauche, les questions de parentalité, elles sont souvent éludées pour ne pas culpabiliser les personnes qui veulent avoir des enfants en ramenant des arguments féministes ou écologiques sur le tapis, mais aussi pour ne pas les encourager non plus en déculpabilisant. Il y a une sorte de flou autour de ces sujets-là. Sauf que si on ne fait pas de la parentalité un sujet politique, c'est un sujet qu'on laisse aux réacs et aux idéologies fascistes, comme les tradwives, ces épouses traditionnelles qui ont le vent en poupe sur les réseaux sociaux. Elles sont populaires parce que pour beaucoup de femmes, comme tu disais tout à l'heure, Lilia, la double journée, c'est toujours une réalité. Et si on évacue la question de la parentalité dans les milieux de gauche, ce sont ces tradwives qui deviennent l'unique réponse aux souffrances de ces femmes qui ont un travail invisible en plus de leur travail salarié.
Perso, faire cette émission sur la parentalité, ça m'a redonné de l'espoir. Parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup questionnée ces derniers mois, celui de devenir maman. Il y a, dans ce que dit Umberto Eco, un enjeu qui explique la montée du fascisme. C'est celui de se mettre à considérer le peuple comme une espèce de grosse unité unique, avec une volonté commune, sans nuance. Vous voyez les zombies de dessins animés qui se sont fait laver le cerveau et qui marchent les yeux dans le vague et la bave au coin de la bouche en répétant tout ce que dit le méchant. Moi, quand je lis l'explication d'Umberto Eco, je visualise ça, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ce que disaient nos invités aussi, je crois, que quand on parle d'éducation, on a toujours l'impression qu'il y aurait un modèle idéal, un modèle universel qu'on devrait suivre les yeux fermés. Et elles ont souligné les limites de cette vision, qui est hyper culpabilisante, et les entendre dire qu'il faut arrêter d'enfermer les personnes dans des cases et que libérer la parole entre parents, ça permet de démonter ce mécanisme, ça fait vachement de bien. Cette émission, elle m'a redonné de l'espoir parce que j'avais besoin d'entendre qu'éduquer des enfants, ça pouvait être joyeux, ça pouvait être vecteur de lien social et aussi et surtout, ça pouvait être moteur de la lutte contre les idées nauséabondes de l'extrême droite et les idées fascisantes. J'ai compris en préparant cette émission que devenir parent, c'était pas forcément synonyme d'isolement et de perte de mobilisation citoyenne, mais que ça pouvait être un super nouveau déclic pour continuer la lutte et la continuer tant qu'il le faudra.
Merci à vous et à nos invités de la Presqu'île pour ces échanges super riches. On se retrouve dans un mois pour explorer d'autres façons de lutter au quotidien contre le fascisme, toujours accompagné de notre cher Umberto Eco. Et comme d'habitude, vous retrouverez des ressources sur la page du podcast sur prune.net. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous souhaitez soutenir notre belle radio associative qui n'est malheureusement pas épargnée par les coupes budgétaires culturelles, vous avez jusqu'au 12 décembre pour participer à notre tombola de Noël. Des places de spectacle, des vinyles, des bons d'achat chez le Discard du Dimanche et bien d'autres cadeaux sont à gagner.
Incroyable.
Et le tirage au sort aura lieu le 13-12. Ça ne peut que vous porter chance. Bon week-end à tous et à bientôt sur le 92 FM.